Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Vendredi 5 janvier, Ripper Café au Lag à Liévin. C'est une première rencontre pour mettre en place un Ripper Café à Liévin. Un Ripper Café, c'est un endroit où on s'entraide pour réparer ses objets. Vous bricolez en électronique, couture, informatique, menuiserie ou autre, ou vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de donner un coup de main ou d'en recevoir un, le lieu est fait pour vous. Vous pouvez apporter vos outils, mais il y en aura aussi sur place. Venez donc aider les personnes à réparer leurs objets le vendredi 5 janvier de 18h à 20h30 au Lag à Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Dans notre agenda, en cette rentrée 2018, nous avons noté le ciné-débat proposé au Lag le vendredi 12 janvier à 19h. Ce soir-là, deux documentaires nous sont proposés. Le premier a été réalisé en 1984 et s'intitule « Mort à 100% ». En voici le descriptif proposé par les organisateurs. « Mort à 100% » tire le bilan d'une vie de travail et d'exploitation pour ceux qui, dans le bassin minier et ailleurs, ont cru au mythe du mineur héroïque au travail et dans la lutte. Ce mythe auquel ont largement contribué les partis politiques de gauche et les syndicats s'est effondré sans heurts dans la mort du bassin du Nord-Pas-de-Calais. Les mineurs se demandent comment ils ont pu contribuer à leur propre exploitation et à leur propre mort par silicose. Le deuxième documentaire est en quelque sorte une suite. Il s'intitule d'ailleurs « Mort à 100% post-scriptum ». Il a été réalisé récemment, en 2017. En voici le descriptif. Après avoir souffert plus que quiconque des deux premières révolutions industrielles, notre région en aperçoit une troisième sans que l'on puisse, là encore, reprendre en main le cours de notre histoire. Mort à 100% post-scriptum a donc la prétention de démystifier notre histoire industrielle régionale pour mieux se réapproprier notre présent. Que produire? Pour qui? Et pour quels besoins? car derrière notre développement technologique, il y a toujours des sacrifiés de la mine, en Chine pour le coltan, au Niger pour l'uranium, etc. Ces deux films sont donc présentés au LAG, en présence des réalisateurs, le vendredi 12 janvier à 19h. Ils seront suivis d'un échange, l'entrée est à prix libre. C'est donc au LAG, à Liévin, 23 avenue Jean Jaurès. Eh bien, je vous propose maintenant une première pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre et aujourd'hui je vous invite à découvrir Unsigned et leur album We Wilt We Bloom. Après de longues années d'attente liées à leur activité dans leur autre groupe Martha, les Britanniques Daniel Ellis et Nathan Stephens Griffin poussent à nouveau Unsigned sur le devant de la scène en emmenant dans leur bagage un peu de la power pop martesque. Moins brute de décoffrage que leurs opus précédents, ce We Wilt We Bloom n'en dégage pas moins une énergie des plus contagieuses et déroule 9 titres tous aussi percutants les uns que les autres. Une véritable réussite. Je vous propose d'écouter un de ces 9 titres, il s'agit de The Grieving Kind.
Sure where to begin. Cause when the parents are away, the kids push boundaries when they play indelibly on the skin. I meant to send a get well card, but writing it became too hard. And so I stayed with you at your place, much too scared to be alone, your frightened counterpart. Tracy Mills, she got cut down in her prime, and it's so clear to me that we are not leaving kind, cause almost nothing fits the formula to rag it at the seams, and all the falling it still haunts me in my dreams. Favorite figurine destroyed, but in the passion of the moment I just laughed and carried on, a stupid broken little toy. It didn't matter much to me, I was so high I couldn't see. But when I woke up the next day, I had to hide the tears from him, so I wiped them away. She got cut down in her prime, and it's so clear to me that we are not leaving kind, cause almost nothing fits the formula to rag it at the seams, and all the thought of it still haunts me in my nightmares and my dreams, and in my nightmares and my dreams, and in my nightmares.
est maintenant l'heure de notre rubrique actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons sur la commémoration de la catastrophe de Liévin, 43 ans après le 27 décembre 1974. Dans l'actualité du bassin minier, il y a la date du 27 décembre. Il y a 43 ans, en 1974, 42 mineurs trouvaient la mort lors de la catastrophe minière de Liévin, la dernière grande catastrophe minière en France quelques années avant la fermeture des derniers puits. À l'époque, en 1974 et 1975, des militantes et militants révolutionnaires s'insurgeaient contre la version officielle qui mettait en avant l'héroïsme des mineurs et la fatalité qui s'abattait sur eux. « Il n'y a pas de fatalité, disait-il. Ce sont les houillères et le capitalisme productiviste qui sont responsables de la mort de ces hommes. » Ce mouvement devait déboucher en mars 1975 sur la tenue d'un tribunal populaire à l'Apollo à Lens, mettant en accusation les houillères et par la pose d'une plaque sur le lieu de la catastrophe, dénonçant un système assassin envoyant des mineurs à la mort. Depuis, chaque année, à côté de la cérémonie d'hommage officielle, se tient une autre cérémonie tenant à rappeler qu'il n'y a pas de fatalité dans la mort des femmes et des hommes au travail. Depuis 2014, 40e anniversaire de la catastrophe de Liévin, s'est par ailleurs constitué un comité d'initiative qui s'est appelé « Aux victimes du capitalisme ». Ce comité dénonce les accidents du travail et les maladies professionnelles et, plus globalement, l'ensemble des agressions dont le capitalisme est à l'origine. En pratique, ce comité mène une campagne politique et financière pour un mémorial aux victimes du capitalisme. Mémorial à ériger sur les lieux de la catastrophe de Liévin. Le 27 décembre dernier, le comité aux victimes du capitalisme animait donc la cérémonie hommage 43 ans après la catastrophe. Micro-rebelle y était et a tendu son micro à deux membres du comité.
On est en plein dans la mythologie du mineur, la fierté du métier, etc. On ne stigmatise pas les véritables responsables des catastrophes, qui étaient les dirigeants des houillères, les dirigeants des compagnies.
Bon, ben moi je suis là aujourd'hui, ce 27 décembre 2007. Je me remémore tous les ans ce 27 décembre 1974, ce qui est mon anniversaire de mariage. Je me suis marié le 22 décembre et j'étais revenu de Paris. Je voulais pas être mineur, bien sûr. J'étais parti en région parisienne. Hein, et j'étais revenu fêter mes 5 ans de mariage et Noël avec mes enfants et mes parents et mes beaux-parents. Et le matin, je me lève vers 7h30, 8h. Et à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait le transistor. Hein, et j'écoute à 8h, catastrophe au Trois-Liévins. Donc j'appelle mon beau-père et tout ça, on est parti à pied, on n'habitait pas loin d'ici. Je me suis retrouvé dans cette rue-là. Et puis devant, il y avait cette fameuse mine-là, puis les grilles. Hein. Et bien sûr, la police était là pour cadrer tout ça. Et toute la matinée, on nous filtrait 1, 2, 5, 10. Et mon beau-père, quand il m'a dit, regarde les corbillères qui arrivent, là, il y avait plein de cercueils. Donc il a dit, tu vas voir, il va en avoir un paquet. Et c'est vrai qu'il y en a eu 42, hein. Voilà. Et donc, moi j'ai perdu 3 personnes de ma famille, le frère de ma mère, le parrain de ma femme, plus un frère à mon beau-frère. Et ce genre de choses, on peut pas l'oublier. Hein. On a appelé ces gens-là des héros. C'est vrai que c'était des héros, parce qu'au moment bien déterminé, ils ont relevé la France par leur courage et tout ça. Il fallait, hein, mais on les a pas remerciés, hein, on les a pas remerciés. Et ce monument-là, pour moi, c'est la vérité. Tandis que là-bas, c'est de l'enfumage, c'est ce que je viens de dire aux gens. Là. Hein, là-bas, il fallait atténuer un peu cette colère qui montait, parce que c'était pas la première catastrophe, et si on avait continué, ça n'aurait pas été la dernière non plus. Et il fallait un peu atténuer tout ça. Et bon, dans les communes à majorité rose, disons, dans le coin, il fallait... Bon, moi, je vois encore Chirac, quand il disait devant moi, j'étais derrière un cercueil, toute la vérité sera faite. La vraie vérité, on ne l'a jamais su. Hein, on a enfumé un peu, on a joué avec des artistes de variété comme le juge Pascal, qui sortait de l'affaire de Vèvre. On a dit, on va prendre celui-là, hein, ça va vendre du papier. Et puis, ben, ça s'est terminé en queue de poisson pareil. Et puis, on a condamné l'ingénieur. Et puis, voilà. Hein, puis, hop, puis, d'année en année, les rescapés sont décédés. Hein, les veuves de mineurs, c'est pareil, ils ont pris de l'âge et tout. On peut aller ce matin à la cabane blanche, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Moi, ma tante, elle me dit toujours « Pourquoi tu viens plus ?» Je dis, non, j'ai plus envie, j'ai envie de cracher là-dessus, sur ces gens-là qui viennent parader. Qui viennent parader. Parce que c'est pour leur prestige. Hein. Kushéda, avec ses beaux discours. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Kushéda ? À part le monument, parce qu'il a été obligé. Quand ils ont vu qu'il y avait des noms ici, ils ont bien été obligés de faire la même chose, c'est-à-dire de copier. C'est pour ça que je dis, ça, c'est la pureté. Là-bas, c'est l'enfumage. Hein. Oui, y a une belle chose qui est prévue, si on nous laisse l'autorisation de l'ériger, parce que ça, c'est pas encore gagné non plus. Hein, hein, on peut s'attendre à tout avec ces gens-là. Ce monument ne coûte que 12 000 euros. Hein, il suffirait d'un élan de toute la population minière, de tout ce qu'il en reste. Hein, 12 000 euros, c'est vite. Là, on est à peu près entre 2 000 et 2 500 euros. On pourrait récolter cette somme et d'avoir un monument où... ce qui était écrit dessus, à toutes les victimes du capitalisme, ce monument sera un monument national. Et à chaque fois qu'il y aura une catastrophe, non seulement minière, mais dans toutes les grosses entreprises de cette région qui est sinistrée, parce que tout ce qu'il y a comme pollution, c'est ici qu'on la met. Hein, hein, et ben, on pourrait faire une cérémonie pour dire au peuple... Bougez, bougez, hein, on est en train de vous exploiter, on vous fait crever pour le capitalisme, c'est ça. Hein. Et moi je suis devenu anticapitaliste, j'ai toujours été, mais depuis la catastrophe, je savais que les houillères c'est exploiter ces gens-là, et le mot était petit quand même, hein, c'était quand même des esclaves. Moi je me souviens, mon père nous a descendus à trois dans la cave, il y avait le bloc de bois là pour casser le bois. Celui qui veut être mineur, il met le coup là-dessus. Parce que lui, ça faisait 10 ans qu'il attendait la mort, en tant que silicosé à 100%. Il savait de quoi il parlait. Hein. Bon, j'ai compris que ma seule issue, c'était de poursuivre mes études, et puis de monter à Paris. Voilà. Mais j'en suis revenu, et j'ai toujours combattu ce capitalisme, ce cancer de la société. Hein. On en voit encore à l'heure actuelle avec... Louis XIV, je l'appelle. Moi, ce qui m'énerve, c'est que le peuple n'a jamais été autant exploité que maintenant, et il ne bouge plus. C'est ça qui m'est... Je ne sais pas ce qu'on a fait au peuple. Parce qu'avant, il y avait encore des mouvements syndicalistes et tout ça. Et 68, moi je suis arrivé à Paris en 68, je sais de quoi je parle. Hein. Mais il faudrait encore un truc comme ça pour...
Mais bon,
tous les ans, j'ai encore la même colère en moi. Hein.
La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, vous esclaves, debout. Le monde va changer de base, ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain.
Place maintenant à notre deuxième pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Avec The Midnight Sons et leur album Descartes. The Midnight Sons est un trio américain de musiciens de Caroline du Nord. Cet album est centré sur le doute philosophique. Son titre, faisant référence au philosophe et mathématicien français René Descartes et à son Cogito Ergo Sum. Chaque titre est pris dans le vocable des mathématiques, équations, variables, asymptotes, et donne dans le folk américain plutôt calme et un rock un peu sale pour une musique acoustique originale. Le morceau qui suit est le premier de cet album. Il s'intitule « Équations ». Maintenant, l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel, à la rubrique Micro-Rebelle Reportage. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Micro-Rebelle Hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative libre et sans pub. Pour cet extrait, nous vous proposons de revenir sur une soirée d'échanges et de débats concernant la place des médias devant les mouvements sociaux. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Je vous laisse donc sans attendre en apprécier quelques passages et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Micro Rebelle pour un nouveau reportage. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la place des médias au regard des mouvements sociaux. L'association des amis du journal Politis organisait en effet une soirée d'échanges et de débats dont l'intitulé est assez parlant. Médias et mouvements sociaux, l'amour vache avec un point d'interrogation. Participaient à cette soirée Denis Siffer, rédacteur en chef de Politis, et Lucie et Loïc du journal régional La Brique. Je commence par vous lire la présentation de la soirée sur l'invitation réalisée par les organisateurs, l'Association des Amis de Politis. Pourquoi les grands médias rendent-ils si mal compte des mouvements sociaux? Au mieux, ils les minimisent, au pire, ils les ignorent ou les méprisent. Qu'attendent les mouvements sociaux des médias? Eux qui, le plus souvent, s'en éloignent et espèrent plutôt dans les médias indépendants et la presse alternative pour relayer leur mobilisation, manifestation, rassemblement, initiative, débat public. Mais les mouvements sociaux sont-ils cantonnés à des médias pour la plupart confidentiels? Et les grands médias peuvent-ils, doivent-ils, réévaluer leur prise en compte et leur couverture du monde social qui a été depuis longtemps supplanté par l'économie? Politis est un hebdomadaire engagé et indépendant qui va fêter son 30e anniversaire. Attentif aux mouvements sociaux, c'est un journal qui a toujours concilié l'écologie et le social dans une optique de transformation sociale ne sacrifiant rien de la rigueur journalistique. La Brique, trimestrielle, fait partie de cette presse alternative, dite aussi « presse pas pareille », que peuvent être aussi des journaux comme Fakir, CQFD, Le Ravi et tant d'autres titres souvent implantés dans un territoire et riches en enquêtes sociales, en coups de gueule, en valorisation des expériences locales et des modes de vie alternatifs. Nous avons pensé que ces deux types de médias avaient des choses à se dire et qu'ils avaient en tout cas des choses à dire quant au traitement de l'information, à la crise de la presse, aux tout nouveaux médias, aux réseaux sociaux, aux médias institutionnels, à la crise de confiance des citoyens par rapport aux médias. Cette soirée d'échanges a été très riche, avec une belle participation du public. Les échanges entre Politis et La Brique n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille, comme on va pouvoir en juger. Micro Rebelle vous propose en effet d'écouter successivement l'introduction de Denis Siffer pour le journal Politis et celle de Lucie et Loïc pour La Brique. Nous commençons donc par écouter Denis Siffer, rédacteur en chef de Politis.
Tous assez critiques sur la façon dont les médias couvrent l'information sociale, et en particulier, disons, les conflits, les luttes, etc. Donc il y a une véritable frustration et parfois même une colère sur la façon dont c'est couvert. Et je vais peut-être essayer d'expliquer de l'intérieur du système médiatique, pourquoi c'est ainsi. Il faut savoir que moi, je suis donc directeur de Politis depuis maintenant très longtemps, trop longtemps, mais qu'avant, j'ai eu une autre vie de journaliste et que j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé dans d'autres journaux et j'ai suivi Mitterrand en voyage officiel longtemps, dans des déplacements à l'étranger, etc. J'ai couvert le Moyen-Orient bien avant Politis déjà, et Arafat, et la guerre civile au Liban, et l'Iran, et tout ça. Donc je viens de là, je ne viens pas de Politis, même si c'est là que je me suis épanoui, si j'ose dire, et je suis ravi d'avoir travaillé et de travailler encore à Politis. Mais je me dis, si je peux apporter quelque chose dans ce genre de soirée, c'est plutôt d'expliquer aussi de l'intérieur les raisons pour lesquelles c'est comme ça, et pas simplement vous dire Patrick Drahi, Lagardère, Bolloré et tout. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ces horribles jojo. Mais pour vous dire que la question de l'indépendance est une question complexe, et vous avez bien introduit, d'une certaine façon et très simplement, la problématique. Parce qu'il y a en effet la problématique du fric et du capital qui s'investit dans les journaux et des regroupements par la finance. Hein. Et ça a beaucoup muté depuis même que je suis journaliste, moi, à la fin des années 70. À l'époque, il y avait R100 qui possédait beaucoup de journaux et qu'on adorait détester. Mais enfin, il était là physiquement. Et à certains égards aussi, collabo, facho était-il, il était attaché à la survie de son journal ou de ses journaux. Le Figaro, l'Aurore, des journaux... le Havre Libre, des journaux régionaux, etc. Il y en avait pas mal. Maintenant, c'est autre chose. Ce sont des gens qui ne s'intéressent plus à leurs journaux, à certains égards. Ce sont des financiers qui utilisent la presse comme simplement des vecteurs d'influence pour leurs affaires, pour leur business. Donc ce sont des gens qui sont insaisissables à certains égards et qui peuvent valser avec leurs journaux le jour au lendemain, les revendre, les sacrifier, etc. Donc c'est une autre ambiance et c'est la conséquence de la mondialisation et aussi de la financiarisation de l'économie dans la presse. Ça a changé. Donc il y a cet aspect-là, et ça c'est en effet la première chose que vous avez dite, et c'est très important, parce qu'on ne peut pas être indépendant si on est financé par ces gens-là, et pas tant parce qu'ils tiendraient la plume à la place des journalistes, il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ça, mais parce qu'ils ont des affaires, justement, et je cite toujours, mais vous le savez sans doute, quand Bolloré est arrivé à Canal+, il a fait une liste de tous les sujets qu'il ne fallait pas aborder. Il y avait la RATP à Paris, parce qu'il y a un journal gratuit dans la RATP, il y a la mairie de Paris, parce qu'elle est aussi impliquée là-dedans, il y avait l'Olympique de Marseille, parce que les affaires à Marseille, il y a les dictateurs africains ou les autocrates africains parce qu'il a fait sa fortune là-bas, etc. Enfin bon, il y avait 10 ou 12 sujets qu'il ne fallait pas aborder. Donc, on touche à la question évidemment de la liberté d'enquêter sur un certain nombre de sujets, mais aussi de la publicité. C'est-à-dire que, comme ce sont des gens qui ont des business multiples et variés, évidemment, non seulement eux-mêmes, mais tous les contrats publicitaires, les annonceurs qui peuvent être en affaire avec un journal sont des sujets tabous qu'il ne faut pas aborder, etc. Donc ça finit par faire beaucoup de choses. Encore une fois, ce n'est pas tellement qu'ils tiennent la plume à la place des journalistes. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils nomment aux bonnes places les bons personnages et qu'ensuite ça marche tout seul. C'est pas la peine. Bon, quelquefois, il y en a un qui manifeste un peu de mauvaise humeur, il est viré. Mais c'est le plus fréquemment, on a des gens qui sont choisis pour être serviles et qui font admirablement le job. Hein, donc, il n'y a rien à leur reprocher. Vous avez abordé l'autre pôle. À propos du média de France Insoumise, je ne sais pas, moi, on va voir ce que ça donne, etc. Mais ça peut poser un autre problème, qui est le problème, disons, des amitiés politiques, de la proximité politique. Et je dirais que nous, on est plus concernés à Politis par ce risque-là que par Drahi ou Bolloré, qui ne veulent pas de nous, et c'est tant bien parce qu'on ne veut pas d'eux, donc il n'y a aucune relation, disons, incestueuse avec ce genre de personnage. En revanche, c'est vrai que quand Mélenchon refuse pendant des mois de donner la moindre interview aux Politis parce que j'ai dit que j'étais pas d'accord avec lui sur Poutine, ça me pose un gros problème, et surtout qu'il va après à France 2 et tout, très colérique après, voilà. Donc, et je ne vais pas développer ça, mais il y en a d'autres. Le problème de la proximité et de l'indépendance avec nos amis, en quelque sorte, avec des guillemets, est parfois plus problématique que Bolloré, Drahi et autres, quand on est un journal indépendant comme le nôtre. Alors nous, on a une structure qui nous garantit une certaine indépendance, c'est-à-dire, c'est pas ici que je vais le dire, parce que Didier Delinotte, Fabienne qui est là, et quelques autres sont membres de l'association qui en fait est l'actionnaire principal de Politis. Ce sont des lecteurs, et avec le personnel de Politis, c'est l'actionnaire principal à 65%. Donc du point de vue capitalistique, si j'ose dire, si j'ose employer ce mot, qui est presque excessif, mais enfin c'est ça quand même, on a une réelle indépendance. Mais du point de vue politique, l'indépendance, elle est à reconquérir chaque semaine. Parce que si on dit du mal des Verts, ou si on dit du mal de même des enseignants, par exemple, parce qu'on a beaucoup d'enseignants, on va avoir immédiatement des lettres colériques avec des menaces de désabonnement, etc. Parce que ce qui différencie nos amis des autres, c'est que nos amis tapent tout de suite au portefeuille. C'est-à-dire que, alors, ils ont l'idée que, comme ce journal est le leur, ce qui est à certains égards bien vrai, puisque c'est eux qui nous font vivre, qui financent le journal, on doit être absolument, disons, réglo avec eux et refléter exactement leurs opinions. Et parfois, j'ai des désabonnements de gens qui m'écrivent en disant bah, j'étais entièrement d'accord avec votre édito, mais le dernier paragraphe m'est insupportable, ou il y a un écho en page 18 qui m'est insupportable, et donc je mets fin, etc. Veuillez, etc. Donc ça arrive assez souvent. Tout ça pour dire que le mythe de l'indépendance virginale, je n'y crois plus depuis longtemps. C'est-à-dire que ça n'existe pas, et nous sommes tous dépendants de quelque chose, quelquefois simplement de nos lecteurs, ou de certaines catégories de nos lecteurs, qui sont des catégories socio-professionnelles, comme on dit, ou politiques. Mais finalement, la question qui se pose à nous tous, c'est d'avoir la meilleure dépendance possible, celle qui nous paraît la plus fréquentable. Et là, je préfère en effet être dépendant de lecteurs, même parfois un peu vifs dans leur réaction, que de Bolloré. Voilà, donc toujours plus complexe qu'on ne le croit, et c'est une bataille de tous les instants, et je passe souvent des heures chaque jour à répondre à des lecteurs qui ne sont pas contents, qui menacent de désabonner parce que un paragraphe ne leur a pas plu, etc. Donc, vous voyez, cette indépendance politique, c'est un combat difficile à mener. Alors, je vais quand même aller un peu plus loin maintenant sur la question donc, du social, parce que là encore, je suis pas là forcément pour dire ce que vous voudriez entendre ou ce que certains d'entre vous aimeraient entendre, mais justement pour peut-être un peu apporter de complexité à ce sujet. D'abord, moi, je n'aime pas trop quand on dit les médias. Bon, mon itinéraire l'explique en partie, mais Politis, Luma, Reporter, et Basta, et même quelques autres, et probablement demain le média de France Insoumise, ce sont des médias, et évidemment ça n'a rien à voir avec l'Express, Le Point, ou Le Figaro, pardon ?
Ou La Brique.
Ou La Brique, mais je la mets dans la première catégorie, la deuxième.
Non, bon, bon.
Et donc, tout ça, c'est des médias, et je dirais que même dans les médias qui seraient les méchants dans mon énoncé, là, il y a aussi des journalistes avec lesquels j'ai travaillé, hein, quand je suis en reportage au Moyen-Orient, etc., et en qui j'ai une grande confiance, et je regarde des signatures, et je regarde pas seulement, disons, le titre du média, je regarde des gens que je connais et avec qui j'ai été dans des reportages parfois difficiles, et en qui j'ai confiance. Donc c'est toujours aussi plus compliqué que ça, cette question-là, cette catégorisation. Donc j'essaie d'éviter l'amalgame. D'autant plus que quand on dit les médias, souvent, quand on cause un petit peu, on se rend compte qu'on parle du journal télévisé. Et donc, évidemment, nous sommes tous dans ce préjugé, qui n'est pas seulement un préjugé d'ailleurs, c'est que le journal télévisé, c'est ce qui nourrit l'opinion, comme on dit, massivement, beaucoup plus que Politis et peut-être même que La Brique. Ça se discute.
Ça se discute.
Mais il y a un mot que j'aime bien, que je trouve le plus grand sociologue des médias, c'est pas Bourdieu, contrairement à ce que vous croyez, c'est Coluche. Qui a dit le journal télévisé peut pas dire la vérité parce qu'à 20h il y a trop de monde qui regarde. Et c'est très profond comme pensée, parce que c'est pas simplement parce que le journal télévisé veut mentir qu'il y a une intentionnalité de mensonge. Là encore, c'est pas aussi simple que ça. C'est parce que c'est un commerce qui doit rechercher le consensus le plus vaste. Et pour rechercher le consensus le plus vaste, eh bien, on cherche le plus petit dénominateur commun. Et le plus petit dénominateur commun, bah, c'est l'air du temps, et c'est les idées majoritaires, dominantes, etc. Donc on retombe sur nos pieds, si vous voulez, de Bourdieu, si j'ose dire, mais on ne passe pas par le même chemin. Et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il ne faudrait pas croire, moi qui suis allé dans nombreuses conférences de rédaction, et pas seulement à Politis, qui est quand même un peu atypique, mais il ne faut pas croire que ce sont des complots contre le social qui se sourdissent comme ça dans ces conférences de rédaction. Souvent, on ne parle pas politique, et souvent, on parle technique. Et la technique, évidemment, se gorge de politique, se remplit de politique. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on va chercher évidemment à faire de l'audience parce qu'on est un commerce. Il y a certains acteurs politiques aussi, c'est un commerce, mais bon, c'est une question d'équilibre. Et donc on va chercher le spectaculaire, ce qui va retenir l'attention. On va chercher l'émotion. Je dis même pas le sensationnel, je laisse de côté cette presse-là qui n'intéresse pas d'ici, mais même un journal télévisé du 20h, c'est ça, c'est faire court et chercher l'émotion. Alors quand on arrive sur le terrain du social, on voit ce que ça peut donner. Ça donne quoi ? Ça donne que, alors d'une part, il y a eu une évolution sociétale massive qui a à voir avec la mondialisation et tout ça, qui fait que les rubriques sociales ont souvent été intégrées à de plus vastes rubriques économiques et sont devenues des petites parties dans un service économique. Et donc on traite souvent l'économie, le social, par le prisme économique, avec forcément les journalistes qui traitent ça sont dans un autre bain, dans un autre jus, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils sont dans une relation de proximité avec des patrons, avec des grands patrons, avec des économistes, tous, ou presque tous libéraux, etc. Donc ça induit évidemment toute une culture de ces journalistes. Mais j'en reviens à l'émotion et disons à cette façon de traiter le social. Ben, ça donne quoi ? Ça donne qu'on va privilégier la violence, parce que ça fait des belles images, hein, et tout ce qui est pas, ce qui donne pas des images n'existe pas. Ça va être dans une manifestation, évidemment, les casseurs, par exemple, mais pas seulement. Ça peut être des syndicalistes qui font brûler des pneus, etc. C'est des syndicalistes, les chemises d'Air France, enfin, tout ce qui fait des images comme ça, un peu à sensation, hein. Et évidemment, c'est rarement au profit, disons, du mouvement social. Mais c'est pas forcément non plus toujours pour le discréditer, c'est pour faire des images. Entendons-nous bien. Le résultat est le même, vous direz. Hein. Ça a un gros inconvénient. C'est qu'on ne montre pas et n'existe pas, du coup, ce qui ne se montre pas. Et ce qui ne se montre pas, c'est quoi ? Ben, c'est l'exploitation. L'exploitation des travailleurs, etc. C'est-à-dire ce qui s'inscrit dans la durée et ne fait pas des images de télévision. Donc c'est la révolte qu'on va montrer, et même si elle est violente, et surtout si elle est violente, si elle est jugée déraisonnable, etc., on va la montrer, et le social va se résumer à ça. Mais c'est encore plus compliqué quand même, parce que ça peut être aussi du social que je qualifierais, moi, de compassionnel. C'est-à-dire que on va montrer des choses qui sont qui indignent la conscience de tout un chacun. Et là, ça va être au profit, disons, des salariés, hein. Mais ça mène pas très loin. C'est le patron américain qui est parti la nuit et qui a vidé son usine pour la délocaliser et qui a laissé les gens sans rien. Alors, vous allez avoir des sujets là-dessus. Regardez bien les gens de télévisés. Je ne plaide pas en leur faveur, mais vous allez avoir des sujets là-dessus. C'est-à-dire la pointe extrême, disons, de l'horreur dans l'exploitation capitaliste. Mais ça a aussi, ça a toujours le même inconvénient, c'est que ça n'attaque pas le système. C'est-à-dire que ça exonère même ce qui est systémique dans l'exploitation. On va montrer. En fait, c'est une bavure. C'est un patron particulièrement odieux, particulièrement antipathique, hein, et qu'on va mettre en exergue, dont on va faire un sujet. Et là, on va interroger les salariés qui vont dire « on est arrivé un beau matin, il est parti, on n'a plus de boulot, etc. » ou « on voulait nous envoyer en Pologne » ou je ne sais pas quoi. Là, on va nous montrer ça. Il y aura ce sujet-là, qui aura les apparences d'un sujet social, mais qui, en réalité, effectivement, va complètement... exonérer, encore une fois, la question profonde de l'exploitation et chercher toujours à illustrer l'exceptionnel, l'exceptionnalité. Et ça, c'est important. Je dis ça parce que si on regarde un journal télévisé, Moi, je suis très attentif. Hein, je regarde, par exemple, sur la 2, la femme qui fait le journal télévisé maintenant fait plus attention que Pujadas. Il y a pas mal de sujets sociaux, mais qui sont toujours, qui correspondent toujours un peu à cette définition que je suis en train d'essayer de donner. Donc, l'émotion, le compassionnel, la violence est toujours au détriment, disons, de tout ce qui pourrait être systémique. Hein. Alors, bon, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous, pour revenir à la question de la violence et des casseurs, parce que souvent on est nous-mêmes irrités quand il y a des manifestations. Dès qu'il y a de la casse, c'est ça que les gens de l'Élysée vont montrer. Ça fait, encore une fois, de très belles images. J'étais invité sur BFM, je crois, je ne sais plus, parce que ça valse un peu dans ma tête, là, BFM, LCI, etc. On est pas mal invité, mais toujours un truc, on a beaucoup de mal à s'exprimer sérieusement. Et je crois que c'était le jour de la manif de Mélenchon, en fait, justement.
Le
23 septembre. Et j'étais donc en plateau avec les deux animateurs, et il y avait à l'écran la jeune fille qui était reporter sur le terrain au milieu de la manif. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un épisode à un moment donné, il y a eu des casseurs en noir, cagoulés, etc., qui ont attaqué une partie de la manif, etc. Bon, ça a été assez fugitif. Mais voilà. Et à ce moment-là, donc... on n'était pas à l'antenne, j'étais en plateau, et les deux animateurs qui avaient l'oreillette avec la rédaction en chef parlaient à la fille qui était sur le terrain, et je comprenais donc ce qu'on leur disait à l'oreillette en devinant, et on leur disait quoi? On leur disait ce qui répercutait à la fille, hein, disait, maintenant l'événement c'est plus la manif, disait-il, c'est les casseurs. Alors évidemment, au moment où ça se produisait, on pouvait imaginer que ça allait prendre de l'ampleur, que ça allait dégénérer, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas, c'est resté extrêmement marginal. Mais voilà ce qui est... Et il faut dire, c'est là encore, moi j'apporte toujours des choses qui peuvent contredire, que la fille a dit pas du tout, elle parlait pas à l'antenne toujours, hein, mais ils se sont engueulés devant moi en fait, quoi, je suis ça avec délectation, et elle a dit pas du tout, moi je suis là-bas, et c'est très marginal, et moi je continue à parler de la manif. Voilà. Donc ça existe aussi ça, hein, c'est pas, rien n'est aussi simple que ce que parfois on croit. Et ils ont dû se résigner à ça, ils n'ont pas assisté ensuite, d'autant plus que l'affaire a finalement été jugulée en un rien de temps. Mais enfin, voilà. Donc, mais on voit bien en même temps que la consigne qui venait probablement d'en haut, parce que l'oreillette que mes deux voisins avaient dans l'oreille, comme son nom l'indique, c'était évidemment de détourner complètement le sujet pour aller vers les casseurs, etc. Et il aurait suffi que la fille ait moins de personnalité et qu'elle obtempère, et puis on aurait eu complètement autre chose. Et c'est souvent le cas. Hein. Voilà, donc... Je ne sais pas s'il faut que je me fasse attention à l'heure, que je me tienne correctement. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais simplement dire encore juste une chose aussi, c'est que les médias aiment le neuf, le nouveau, la nouveauté. C'est en ça que c'est un commerce. Donc ils n'aiment pas le conservatisme, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas. Et moi, j'ai toujours en tête une phrase, belle phrase de Marx, qui est très paradoxale, qui on retrouve dans l'idéologie allemande, où il dit la lutte de classe, c'est un processus conservateur, au sens où c'est pour se conserver et conserver ses acquis qu'on commence à se battre. Après, on va plus loin, on peut aller jusqu'à la révolution, etc. Mais on commence comme ça. Et évidemment, des gens, des syndicalistes là, qui disent « on veut défendre nos acquis », et on a fixé une ligne rouge, etc., et on se bat pour ça, ça ne plaît pas du tout aux médias. En revanche, un syndicat plus ouvert, comme la CFDT, etc., qui est beaucoup plus novateur, qui propose des choses nouvelles, qui brise les lignes, etc., et puis Macron et tout, qui change et qui dit il faut vivre avec son temps, etc., ça plaît beaucoup aux médias. Et là encore, on a la rencontre entre un contenu politique et puis une apparence technique et commerciale, c'est-à-dire faire du neuf, etc. Donc, et dernière chose, qui est très importante aussi pour expliquer cette manipulation autour de la question du social, c'est la question du chômage, c'est-à-dire que les chiffres du chômage. Hein, on crée toute une ambiance. En fait, qu'est-ce que c'est Macron ? Macron, c'est quelqu'un qui dit on va vaincre le chômage. Il dit ça comme tout le monde d'ailleurs, mais on va le vaincre par le bas, c'est-à-dire on va précariser et on va détruire tous les acquis, etc. Et il y aura beaucoup moins de chômeurs, il y aura des gens qui gagneront 600 euros par mois, mais au moins les chiffres du chômage, on va les faire baisser. Hein. Et les médias aiment beaucoup ça, et donc le fait que de façon unique, exclusive, le social souvent se résume aux chiffres du chômage, c'est pas innocent non plus. Ça, c'est particulièrement pervers. Parce qu'évidemment, on a tous tendance à dire « Ah, les chiffres ont grimpé, etc. » Mais le discours qui l'accompagne immédiatement, c'est pas le partage des richesses, c'est comment faire baisser les chiffres du chômage en précarisant les gens. Et tout le discours donc, de François Langlais, enfin, des journalistes Dominique Seux sur France Inter, des économistes libéraux, tous ces discours convergent vers ça. Donc, vous voyez, il y a toute une série d'arguties qui sont assez pervers.
Nous sommes toujours sur Micro Rebelle, à l'écoute d'un reportage consacré au rapport entre les médias et les mouvements sociaux. Nous venons d'écouter Denis Siffert, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis, en introduction à la soirée organisée par les Amis de Politis sur le thème « Médias et mouvements sociaux, l'amour vache ?» avec un point d'interrogation. À l'occasion de cette soirée, les Amis de Politis avaient également invité des représentantes et représentants du journal régional La Brique. Je vous propose maintenant de les écouter. Il s'agit de Lucie, qui est la directrice de publication actuelle de La Brique. Elle est accompagnée de Loïc.
Il y a énormément de choses qui ont été dites sur lesquelles on n'est pas d'accord et aussi où on se reconnaît, enfin, en même temps, enfin, on s'est énormément éloigné du sujet. Et peut-être la première chose que j'ai envie de te dire, Denis, c'est que j'ai pas l'impression que tu parles de journaux, en fait, quand tu parles là de tout ce dont tu as parlé. C'était quand même un assez grand tunnel et tout. Enfin, nous, on est plutôt là pour parler de presse, en fait, et particulièrement de presse papier. Et tu as pas arrêter de nous rappeler sur la télévision, le spectacle et enfin en fait on a plein d'anti-exemples sur la presse papier. Enfin tu sais, tu dis ce qui est vendeur, ce qui est marchand et tout. Bah, il me semble qu'il y a un journal qui se porte très bien, qui a pas de pub, qui fait 8 pages tous les semaines. Ça s'appelle Le Canard Enchaîné et ils sont sur des lingots d'or, on va dire. Il y a un autre journal qui se porte très bien, il s'appelle Le Monde Diplomatique. Il y a aussi Le Courrier International. Il y a toute la petite presse aussi qui est là un peu à côté. Et j'espère bien aussi que Politis se porte bien à ce niveau-là. Et que, enfin, j'ai un peu l'impression que tu mets aussi BFM TV à peu près au même niveau que les petits journaux. Enfin, je sais pas. Enfin, même Le Canard Enchaîné, en fait.
J'ai pris la précaution de dire le contraire au début, mais enfin bon.
D'accord. Après, tu peux répondre. Mais en tout cas, je préfère cette forme-là que, tu vois, le long truc un peu. Enfin, je sais bien que tu as un train après, mais et l'idée, c'est pas du tout non plus de...
Dans les trains, il y a des tunnels. En
fait. Oui, c'est oui, voilà. Il y a des tunnels, des fois, assez longs. Et en fait, nous, on a un exemple local qui n'appartient à aucun milliardaire qui s'appelle La Voix du Nord. Qui a aucune pression particulièrement, enfin il n'y a pas de Bolloré derrière La Voix du Nord, il y a le groupe Rossel qui a des tas de filiales, on ne sait même pas trop ce qu'ils en font. Enfin bon, et, enfin, on n'a pas l'impression que non plus qu'il y ait une pression et un choix aussi des sujets éditoriaux, qui viennent d'en haut et de manière assez magique. Enfin, il y a aussi des journalistes qui peuvent faire de la merde et qui ont aussi une adhésion parce qu'ils sont dans un tel moule, qui peuvent être de droite aussi, hein, ça peut exister, et qui peuvent faire de la presse un peu de caniveau. Enfin, ça peut exister. Et puis nous on est très fiers de pas en appartenir. Et pardon si je caricature un peu, mais si tu veux, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses que tu dis ou sur lesquelles on est vraiment pas d'accord. Enfin tu dis quand il y a une question de consensus où en fait on va reprendre les idées dominantes et tout. Donc l'idée dominante, ok, c'est le libéralisme et tout. Enfin c'est hyper bizarre en fait. Enfin il y a plein d'antithèses, il y a plein de contre-exemples. Enfin et en fait il y a aussi de la manœuvre sans tomber dans le complot. Et puis de toute façon on aura beau le répéter ou quoi. Enfin il y a quand même aussi des émissions qui étaient hyper populaires. Tu prends France Inter, Daniel Mermet, ça marchait très bien. Tu prends Pierre Karl, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort de lui, bah, ça marche et ça se diffuse. Le média, on verra ce que ça vaudra, mais il y a plein de choses qui sont à la manœuvre en ce moment. Tout à l'heure, tu parlais du rachat de Challenge par Renault. Il me semble aussi que le premier actionnaire de Renault, c'est quand même l'État français aussi. Enfin, il y a plein de trucs aussi à soulever. Et plutôt que de dire que bah, y a quelques milliardaires qui sont à la manœuvre, en fait, il y a aussi une adhésion du système et aussi un moule dans lequel les journalistes, bah, pour se faire une place, pour avoir leur salaire, enfin, y a aussi d'autres contingences que la subvention, que enfin il y a aussi une adhésion idéologique aussi à ce, enfin je soupçonne absolument pas Politis de ça, hein, donc on soit clair, enfin on a pris à peu près la précaution d'éplucher un peu de ce que faisait Politis avant, et les éditos que tu fais ils sont super, hein, mais enfin voilà, enfin on n'est pas du tout d'accord sur le constat à faire de l'état de la presse actuelle.
Je peux t'interrompre deux secondes.
Ben oui, vas-y.
Le sujet, c'est l'amour vache. Donc oui. Moi, je pense que c'est l'amour vache. C'est pas la brique, c'est pas le canard enchaîné, c'est pas, ouais, Basta, c'est pas Reporter, ouais, que je connais, qui sont des amis. L'amour vache, c'est le système. C'est ce
d'accord
dont j'ai parlé.
C'est bien aussi de mettre en avant aussi, oui, les copains, les amis. C'est, ouais, peut-être même les premiers à remettre en avant. Et, enfin, avant de... Enfin...
Non, mais on m'a rien demandé de traiter la presse alternative.
D'accord.
J'aurais traité la presse alternative.
Okay.
Et là, l'amour vache, c'est pas le canard enchaîné et Reporter, quoi. Et, ou Basta, ou la brique.
Merci. Mais d'ailleurs, cette idée d'amour vache, nous, on était assez étonnés de voir ce titre apparaître, en fait, parce que la brique, elle a une identité particulière, elle a une façon de... Enfin, en fait, si elle existe, c'est aussi parce qu'elle est aussi fâchée avec ces fameux médias mainstream, comme on les décrit aujourd'hui.
Ce micro rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.